Merci d'écouter RFI. Il est 3h à Paris, 1h en temps universel.
Mathis Limano.
La défense civile de la bande de Gaza rapporte la mort de 36 personnes hier, 6 d'entre elles aux abords d'un centre d'aide humanitaire. Nouveau drame autour de la distribution dans l'enclave. Un navire humanitaire est en route pour Gaza. À son bord, l'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan. 12 millions de dollars de moyens de contraception sur le point d'être détruits, stockés dans des entrepôts. Ils auraient dû être livrés par les États-Unis, mais rien n'est moins sûr depuis la suppression des programmes de l'Agence américaine pour le développement international. À suivre aussi, l'Amazonie part en fumée. La déforestation a augmenté de 9% ces 10 derniers mois en cause de nouvelles méthodes destructrices utilisées par les organisations criminelles. Et puis, la reine de la terre battue parisienne s'appelle Coco Gauff. À seulement 21 ans, l'américaine a abattu la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka en finale de Roland-Garros. Le navire humanitaire de la flottille de la Liberté s'approche des côtes de la bande de Gaza. Il devrait arriver dans la soirée de dimanche, selon son équipage. À son bord, l'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan et la militante suédoise Greta Thunberg, mais aussi du lait, des jus, des boîtes de conserve. Un chargement symbolique visant à briser le blocus israélien, d'après son équipage. Michel Paul, vous êtes à Jérusalem. Pour RFI, la marine israélienne se dit prête à intercepter le navire.
L'armée israélienne entend faire respecter le blocus maritime sur la bande de Gaza et se tient prête à faire face à un large éventail de scénarios. C'est ce qu'indique un responsable militaire israélien. Si le Madeleine poursuit sa route vers Gaza, il sera intercepté, précise-t-il encore, et il pourrait être remorqué vers le port d'Ashdod et ses passagers expulsés par voie aérienne. À deux exceptions près, en 2008, aucun bateau de la flottille de la paix n'a réussi dans sa mission. L'échec le plus médiatisé et le plus tragique s'est déroulé en mai 2010 avec l'abordage par la marine israélienne du navire turc, le Mavi Marmara, 800 personnes à bord et 10 000 tonnes de matériel humanitaire, un assaut qui s'est terminé avec la mort de 10 passagers. Depuis, les navires de la flottille sont victimes de pannes bizarres ou d'attaques non revendiquées. C'était le cas le mois dernier. Le Conscience a été attaqué par des drones dans les eaux internationales au large de Malte, causant un incendie et une brèche dans la coque. La coalition de la flottille de la Liberté a imputé cette attaque à Israël. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Par la mer, la terre ou les airs, l'entrée de l'aide reste gravement entravée à Gaza et quand les distributions ont lieu, elles virent au drame. Hier, 6 personnes sont mortes près de Rafah au sud de l'enclave. Venues récupérer des vivres, des civils ont été pris pour cible par l'armée israélienne, rapportent des témoins sur place. Tel Aviv parle de son côté d'éléments suspects dans la foule. Au total, 36 personnes ont été tuées à Gaza ces dernières 24 heures. Par ailleurs, l'armée israélienne a ramené un nouveau corps. Il s'agit d'un otage thaïlandais enlevé le 7 octobre 2023. Dans la bande de Gaza, 55 otages sont toujours détenus, dont au moins 31 sont décédés. Hier soir, des manifestants se sont réunis à Tel Aviv réclamant le retour et interpellant le gouvernement. Ils ont exhorté le premier ministre israélien à trouver un accord. RFI, les 3h03 à Paris. Des millions de contraceptifs bloqués dans des entrepôts et menacés de destruction, destinés aux populations des pays les plus pauvres. Les États-Unis devaient en assurer la livraison. Problème, Washington a supprimé une grande partie des financements des programmes de l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international, et tergiverse désormais sur le devenir de ce stock, Laura Martel.
D'après l'enquête du Washington Post, le stock en question, entreposé en Belgique et aux Émirats arabes unis, comprend des préservatifs, mais aussi des implants contraceptifs, des pilules et des dispositifs intra-utérins pour une valeur de plus de 12 millions de dollars. Des moyens de contraception initialement destinés en majeure partie aux femmes vulnérables d'Afrique subsaharienne, notamment les plus jeunes, exposées aux grossesses précoces, et toutes celles qui n'ont pas accès aux contraceptifs, faute de moyens ou en raison de conflits. Le stock est bloqué depuis que le gouvernement américain a gelé en janvier l'essentiel de ces programmes d'aide au développement et semble ne plus vouloir ni faire don des contraceptifs, ni en payer les coûts de livraison ou de destruction et insisterait plutôt pour les vendre, bien qu'un haut fonctionnaire du département d'État qui supervise USAID affirme qu'aucune décision quant au devenir du stock n'a été prise. Selon le Post, des discussions ont été lancées entre des représentants des pays concernés, des agences et ONG humanitaires internationales et Chemonix, l'entreprise chargée de l'approvisionnement en produits de santé d'USAID. Mais la vente, comme le don s'avère difficile, admet un responsable de Chemonix. Car au-delà de l'aspect financier, la moitié des contraceptifs stockés ont d'ores et déjà une durée de vie inférieure à celle habituellement exigée pour l'importation de produits de santé.
Laura Martel, les deux camps se renvoient la balle. Russes et Ukrainiens s'accusent mutuellement de saboter l'échange de prisonniers qui devait se dérouler ce week-end. Seul résultat concret des pourparlers qui se sont tenus à Istanbul en début de semaine. La nuit dernière, la Russie a mené une attaque massive sur l'Ukraine. Les villes de Kherson et Kharkiv particulièrement touchées. Au moins 10 personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées. Silence, on déforeste. À quelques mois de la COP30 au Brésil, le pays enregistre des chiffres spectaculaires de déforestation, plus 92% au mois de mai par rapport à mai 2024, c'est presque le double. D'après le gouvernement brésilien, ces chiffres vertigineux sont surtout dus aux feux de forêt, conséquence de la sécheresse. Mais pour les scientifiques, comme le climatologue brésilien et ex-membre du GIEC Carlos Nobre, l'explication se trouve dans un changement de méthode de la part des acteurs de la déforestation illégale.
Ces incendies ont beaucoup à voir avec la sécheresse record de l'année dernière, mais ce n'est pas que ça. Nous suspectons le crime organisé d'utiliser le feu pour déforester désormais. Couper les arbres directement, comme ils l'ont fait pendant des décennies, cela ne prend pas juste quelques minutes, il faut des jours et des jours. Et le système de surveillance satellite le détecte et les autorités peuvent venir pour stopper la déforestation. Quand un criminel met le feu à la forêt, il le fait et il fuit. Ensuite, à cause de la sécheresse, le feu s'étend beaucoup. Et au bout d'un moment, ces zones brûlées atteignent un stade de dégradation tel qu'on les identifie comme déforestées. Donc, l'étendue de ces zones dégradées qu'on enregistre ensuite comme déforestées est liée à la sécheresse, mais l'immense majorité de ces feux sont d'origine humaine et donc criminelle.
Explication recueillie par Lucille Gimbert. En Colombie, un candidat à la présidentielle 2026 blessé par balle alors qu'il tenait un meeting à Bogota, Miguel Uribe, sénateur conservateur, a été pris pour cible. Le gouvernement dénonce un attentat et offre une récompense de $700,000 pour toute information permettant de capturer les responsables. La presse colombienne fait déjà état d'une arrestation. La gauche française présentera-t-elle un candidat unique à la présidentielle 2027 ? Pour le patron des socialistes réélu il y a quelques jours, c'est la solution pour éviter l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Olivier Faure a également ouvert la porte dans un entretien à la Tribune dimanche à l'organisation d'une primaire pour désigner un candidat unique. Et puis à Roland-Garros, eh bien c'est bientôt la fin, non sans émotion. Hier, c'est la numéro 2 mondiale, l'américaine Coco Gauff, qui a remporté le tournoi parisien à seulement 21 ans. Au terme d'un match de 2h30, elle est venue à bout de la numéro 1 mondiale, la Biélorusse Arina Sabalenka. Un combat de titans, Frédéric Suto, et à la clé, un premier sacre parisien pour l'américaine.
Au bon souvenir de Serena Williams, voilà 10 ans que l'hymne américain n'avait pas retenti dans le ciel de Roland-Garros pour couronner sa championne, Coco Gauff, afro-américaine comme son aîné. Elle avait été dépassée ici même en finale en 2022 face à Iga Świątek. Cette fois, à 21 ans, opposée à la numéro 1 mondiale, Arina Sabalenka, c'est elle qui a le mieux géré ses émotions. La coupe Suzanne Lenglen sous le bras, Coco Gauff a lancé un grand merci au public.
Je ne sais pas ce que j'ai fait pour recevoir autant d'amour de la part du public français, mais vraiment merci.
Merci beaucoup, c'est le public qui la remercie pour cette formidable finale, un match épique à rebondissement de 2h40.
C'était assez fou, plein de rebondissements, des breaks de tous les côtés. Ouais, c'était génial.
Alors Coco Gauff, elle a fait un match de malade, mais Sabalenka, elle n'a pas démérité parce qu'elle avait trop de puissance. J'ai eu peur pour elle, pour Coco, mais bon, finalement elle a gagné, c'était ma favorite.
Mais c'était hyper bien en fait, elle s'est jamais démontée, c'est tout le temps, elle était restée hyper calme tout le temps, Coco Gauff encore.
Ah magnifique, j'ai jamais vu une finale comme ça. Coco, Chanel.
Coco, reine de Paris, après New York et l'US Open 2023, elle soulève le deuxième grand chelem de sa carrière. Frédéric Suto, Roland-Garros, RFI.
Et ce dimanche marquera vraiment la fin du tournoi avec la finale homme à partir de 13h, temps universel. L'Italien numéro 1 mondial Yannick Sinner retrouvera en finale son dauphin au classement et tenant du titre, l'Espagnol Carlos Alcaraz. Un dimanche chargé sur les courts et les pelouses. La petite finale de la Ligue des Nations France-Allemagne, c'est dans l'après-midi. Puis à 19h, temps universel, les Espagnols tenant du titre contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. Une finale à suivre en direct et en intégralité sur RFI. Il est 3h10 à Paris, 1h10 en temps universel. Bonne suite des programmes sur la Radio Mondiale.